Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Michel Bourgès-Monory dans notre émission « Bienvenue en Europe ». Et alors, je crois qu'il y a eu, et que vous y avez assisté, une rencontre avec Jérôme Vignon qui s'est faite à Chartres, où on a évoqué l'Europe. Alors peut-être on peut en faire l'écho, tout en sachant que les auditeurs intéressés pourront trouver sur le site de la radio l'intégralité de ce qui a été dit. Mais tout de même...
Non, c'était une conférence vraiment très intéressante qui s'est tenue à la Visitation, donc dans le cadre diocésain. Et Jérôme Vignon, pour quand même le situer pour les auditeurs, c'est quand même un Européen convaincu et un chrétien catholique très engagé.
Il est ancien président voilà, des semaines sociales,
pendant plusieurs années. Voilà. Son passé européen est également très marquant, et parce qu'il a été directement auprès de Jacques Delors. Et ce qui m'a donné le plaisir de pouvoir travailler avec lui et d'échanger. Il a fait une conférence qui était consacrée à l'Europe et les migrations. Et dans ce cadre-là, il a bien essayé de montrer au public que l'Europe est absolument, le niveau européen est absolument indispensable, non seulement nécessaire, mais indispensable pour régler ce problème de la migration. Et ce n'est pas à travers le repli, comme on le voit en Hongrie, par exemple, en Pologne ou ailleurs, mais dans chacun de nos pays aussi, ce repli de dire « on va régler le problème nous-mêmes, on va fermer les frontières, on va trouver des solutions ». Non, il a démontré que, au contraire, un sujet pareil ne peut être traité qu'au niveau européen et qu'au niveau national, cela ne servirait à rien. Et d'autant plus dans le cadre du monde actuel tel qu'il est.
Ceci dit, c'est vrai que pour avoir posé la question à des autorités européennes, on m'avait dit pour l'instant, cette réflexion ou cette question dépend de chaque pays. Donc là, il y a aussi, et c'est intéressant parce qu'on voit que dans les consultations citoyennes, les gens souhaitent que la question des migrations soit prise en compte par l'Europe.
Oui, c'est-à-dire que légalement, au stade actuel, si l'on veut régler le problème au niveau européen, il faut qu'il y ait un accord entre les États européens. Et ce n'est pas le cas. C'est justement là où le bât blesse, en quelque sorte, où il y a des questions qui se posent. On connaît tous la situation qui s'est posée en Grèce, en Italie, maintenant en Espagne, avec des arrivées, des flux de migrants qui sont à l'heure actuelle beaucoup moins importants. Donc il y a ce problème de gestion des frontières, il y a le problème du droit d'asile. Comment différencier les migrants économiques des véritables réfugiés pour des faits de guerre et autres qu'on doit accueillir selon les traités internationaux. Donc tout ceci doit être réglé au niveau européen, mais pour cela, l'Europe n'a pas les outils, elle en a certains. Elle a développé Frontex, on a renforcé certaines mesures, mais par exemple l'harmonisation du droit d'asile, l'harmonisation et la répartition des réfugiés, il y a toute une série de mesures très détaillées qui, évidemment, au plan national, il y a un rôle à jouer, mais si chaque pays agit de manière séparée, cela ne servira à rien. Et là, on tombe par ailleurs au fait qu'il y a quand même les accords de Schengen qui font qu'il y a une libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union européenne et que par conséquent, quelqu'un qui est débouté à un endroit va aller sur le pays voisin pour essayer de trouver ce qui l'arrangera le mieux. Donc on retrouve là le problème habituel des questions européennes auxquelles les citoyens sont très attentifs et attachés, c'est que... On dit « c'est toujours l'Europe doit faire ci, l'Europe... » Oui, mais à condition que les États et les gouvernements prennent les mesures d'harmonisation qui s'imposent. On peut même dériver, indépendamment du problème des migrants, on passe au problème de la fiscalité, du droit du travail, sociaux. S'il n'y a pas un minimum de
concertation et de coordination, quand même.
Mais à condition que les États soient d'accord pour le faire. Or, même si les citoyens le réclament, mais si les gouvernements n'agissent pas et ne se mettent pas d'accord, eh bien, on est bloqué. Et c'est précisément la situation actuelle.
Oui, alors, justement, et là-dessus, il me semble aussi qu'il y a quand même aussi une réalité géographique. C'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la Grèce qui sont au bord de la mer et qui voient les migrants arriver. Et puis, il y a aussi le fait que certains pays n'ont pas les mêmes niveaux de développement et certains pays n'ont pas non plus la même démographie. Et en Allemagne, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, lorsque Mme Merkel ouvre ses frontières, on dit il ne faut pas qu'elle ouvre ses frontières. Oui, mais sauf que en Allemagne, il y a actuellement le plein emploi et on manque même de certaines main-d'œuvre. Donc, évidemment, là, il y a peut-être à apprendre, et ça, c'est l'échelon européen, à apprendre des autres. Et ça, ça me paraît intéressant. Je vais faire le lien avec la jeunesse, parce que la jeunesse est favorable à l'Europe d'une façon générale, et la jeunesse se promène en Europe et va voir comment c'est ailleurs. Et je crois que la transition va se faire plutôt avec le Brexit. Au Royaume-Uni, les jeunes étaient favorables au maintien dans l'Europe parce que, justement, ils sortent et parce qu'ils voient l'avenir. Et c'est vrai que lorsque l'on est retraité, bon, ma foi, l'Europe est derrière nous, si j'ose dire.
Donc, c'est très bien de souligner tout cela. Et d'ailleurs, je reprends ici le compte-rendu que j'ai du dernier Conseil européen qui s'est tenu les 13 et 14 décembre derniers. Ce Conseil européen passe en revue toute une série de sujets, dont notamment le Brexit, qui a été un peu...
Allez, parlons du Brexit.
Mais juste un mot avant de parler de Brexit sur les problèmes des migrants et migrations. Je trouve que c'est tellement symptomatique de la manière dont l'Europe est gérée. On est pro-européen, on peut le dire et l'avouer ici, dans le cadre de cette radio.
Oui, si on a fait la mission, c'est pour ça.
On peut être critique sur la manière dont cette Europe fonctionne. Et au niveau du Conseil européen, donc nous avons là les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent tous ensemble. Et puis, parmi les points à l'ordre du jour, indépendamment du Brexit, il y avait un point migration. Quelle est la décision qu'ils prennent en ce qui concerne justement ces sujets brûlants ? Bon, évidemment, le texte que j'ai là sous les yeux est en anglais, mais sans vous le traduire, voilà ce qu'ils décident. Eh bien, que les responsables et le Conseil européen prend connaissance ces questions-là et invite à approfondir le sujet avec des belles phrases creuses. Et il demande aux ministres d'approfondir la question et de lui rendre compte ultérieurement. Bon, et voilà comment tous les sujets sont pris en compte. Sauf là-dedans, quand il y a vraiment une décision qui doit être prise. Mais donc, on passe en revue les sujets importants et puis on fait semblant de les traiter.
On
prend conscience qu'il y a
des
différences, qu'il n'y a pas d'accord. Et du coup, on fait un grand papier dans lequel, en conclusion, on renvoie le bébé aux ministres qui, de toute façon, dépendent précisément de ces mêmes chefs d'État et de gouvernement, qui ne pourront pas approfondir plus la question. Et on renvoie la balle à une session ultérieure. Et on peut... J'ai tous les sujets ici qui ont été traités. À chaque fois, on renvoie au mois de juin de l'année prochaine, au mois de mars pour certaines questions. Et puis, tout est comme cela. Alors, bon, évidemment,
donc,
il y a des choses à changer.
Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut peut-être une efficacité.
Les citoyens ont leur mot à dire. Et précisément là, je reviens à ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est que ces sondages ou ces demandes d'informations sur l'Europe et ces réunions qui se sont tenues, les réunions citoyennes qui sont tenues au niveau européen, donc un rapport a été publié qui les... condense, qui les analyse, qui a été publié le 14 décembre. Donc c'est tout à fait récent.
Voilà, 1082 événements en France sur un total de 1700 en Europe. Et l'Europe est vue, alors je cite, l'Europe est vue positivement. Certains pays se sont concentrés sur les universités et les jeunes, tandis que d'autres ont orienté les débats sur les seuls sujets d'intérêt nationaux. Mais on voit que la Hongrie a eu quelques conférences institutionnelles. L'Italie n'a rendu aucune déclaration politique. Mais par contre, l'Europe est perçue positivement par la plupart des participants qui réclament, et ça rejoint ce que vous venez de dire, un excès de bureaucratie à éliminer et qui dénonce le manque de transparence, de vision claire et de leadership. Mais ça, ce sont nos politiques, donc nous-mêmes. Et rappelons-nous que le référendum d'initiative citoyenne existe au niveau européen. Je suis étonnée d'entendre constamment dans les différents bulletins d'information, de voir que les Gilets jaunes proposent cela, n'est-ce pas ? Mais aucun journaliste n'a fait la remarque que cela existait déjà et que les Gilets jaunes, comme les autres citoyens, comme tout citoyen en France, et comme vous, chers auditeurs, s'il y a des sujets qui vous intéressent, pouvaient intervenir. Et non seulement ça, mais lorsque une décision est prise par le Conseil de l'Europe, non, par l'Europe de Bruxelles, il y a la possibilité de s'exprimer sur un projet de loi à condition de dire « ce sujet m'intéresse parce que sur l'éducation, par exemple, eh bien, je suis enseignante ou parce que sur un sujet comme l'éducation, je suis dans la vie sociale scolaire et je trouve que l'éducation joue trop la reproduction, par exemple. » Enfin, en tout cas, on peut s'exprimer et il y a ce référendum d'initiative citoyenne. Il faut 1 million de signatures et que ces signatures soient de 8 pays. Nous sommes 27, 8 pays. On peut imaginer que sur des sujets concernant l'immigration, sur des sujets concernant la convergence sociale, c'est-à-dire faire en sorte que l'écart entre les salaires ou les revenus existe un peu moins, donc revoir peut-être la fiscalité, eh bien on peut imaginer qu'on devrait pouvoir assez facilement trouver le million de personnes dans 8 pays pour ces sujets. Bon, il y a aussi d'autres domaines.
Et ces sujets, une fois que cette initiative citoyenne a obtenu
1 million de signatures,
les institutions sont obligées d'en tenir compte et de répondre à l'attente.
Alors, de répondre,
une forme
voilà.
Ou une autre, c'est-à-dire que la
de travailler sur la question et de d'informer
chose,
le Parlement,
etc.
Donc là, il y a vraiment une initiative citoyenne. Alors bien sûr, il y a aussi des réflexions sur le renforcement de l'union économique et monétaire pour éviter de nouvelles crises, une protection sociale, c'est quelque chose de majeur, et puis aussi une grande action dans le domaine de l'éducation et déjà dans le domaine de la reconnaissance des diplômes. Cela existe déjà, donc je trouve ça intéressant de voir que les gens demandent des choses qui existe déjà. Donc
oui,
là, il y a un déficit d'information de la part de l'Europe.
Juste un mot pour rebondir sur la dimension économique et sociale. Sur le plan économique, c'est intéressant de voir par rapport au Conseil européen de ce qui vient d'être mis en place. Parallèlement au Conseil européen, s'est tenue une réunion de l'Eurozone. Donc là, ce sont les 19 pays qui sont membres de l'euro,
oui,
de la monnaie
unique. Oui.
Or, dans ce cadre-là, c'était le président français, Emmanuel Macron, qui avait été, notamment lors de son discours de la Sorbonne, qui avait présenté un certain nombre de mesures qu'il souhaitait voir prendre au niveau européen.
Et là, ça avance.
Alors là, ça avance, mais là aussi, c'est intéressant de le souligner, donc il y avait parmi les demandes de la France le sujet d'un budget propre à la zone euro. Et que ce budget soit fourni de telle manière qu'il puisse non seulement faire un rebond de la croissance dans la zone euro pour appuyer un certain nombre de mesures, mais également qu'en cas de problème monétaire, qu'il puisse y avoir un appui à travers un système de protection en quelque sorte de la zone euro qui pouvait venir en aide à tel ou tel État. Or, au niveau du Conseil européen, alors au départ, il y avait un niet total de tout le monde. Les Allemands, finalement, qui étaient les plus réticents pour une question...
Ils sont les plus riches, donc ils participeraient davantage.
Voilà, donc avec qui tiennent un certain rigorisme que l'on peut comprendre par ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même des règles du jeu à respecter quand on partage une même monnaie. Mais finalement, les Allemands, avec Mme Merkel, se sont ralliés à cette dimension d'un budget de la zone euro, qui n'existe pas actuellement. Il y a un budget global pour les 28, demain 27. Mais c'est un accord à minima, c'est-à-dire qu'on renvoie là aussi la balle dans le camp des ministres qui devront déterminer quel sera le montant qui sera attribué à ce budget. D'ores et déjà, vous avez toute une série de pays de la zone euro qui, il n'est pas question de toucher à quoi que ce soit. Donc il y a à la fois une avancée, disons,
de la part des citoyens,
avec un appui des citoyens, mais au niveau gouvernemental, avec évidemment, ce qui peut se comprendre aussi, l'égoïsme national traditionnel classique, qui fait que, oh là 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 là, attention, il faut peut-être se méfier. Sur le plan social, là aussi, On peut rebondir sur l'une de ces demandes citoyennes. Et il y a quand même certaines avancées, mais on est loin du compte, parce qu'il faut, là aussi, harmoniser toute une série de choses au niveau européen. On ne relève pas des compétences totales au niveau européen, donc chacun des pays s'arc-boute sur sa propre position, indépendamment du fait qu'il se crée des concurrences déloyales, que ce soit au plan fiscal ou au plan du droit du travail. Mais dernièrement, le Parlement européen fait quand même aussi, lors de la dernière session, et là je crois que c'était le 12 décembre dernier, le Parlement européen a quand même voté, c'était le 11 décembre exactement à Strasbourg, par 345 voix contre 287, donc quand même une large majorité, même s'il y avait une forte opposition, une nouvelle coordination des systèmes de sécurité sociale au plan européen.
Donc, ça, donc c'est des très avancées important. Sur le plan social dont
et
nous allons...
Donc, il y a eu plusieurs choses comme cela qui ont été soulignées, par le Comité économique et social européen qui a appuyé toute une série de mesures dans ce sens. Donc il y a des choses qui se passent, on essaie de répondre aux citoyens, mais là encore, on retombe sur des difficultés nationales avec les gouvernements qui nous représentent.
Eh bien, nous allons reprendre ces questions tout à fait importantes et intéressantes après la pause musicale. Nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe sur Radio Grand Ciel avec M. Michel Bourgès-Bonnoury et on évoque les questions européennes qui sont d'actualité. Donc il y a le Brexit, après on parlera un peu de la convergence entre les idées de ce qu'on appelle les gilets jaunes et il se trouve, et c'est tout à fait intéressant de voir que ces idées sont en bonne relation avec les idées européennes. Une chance pour nous. Alors parlons d'abord du Brexit.
Oui, alors le Brexit, évidemment, fait la une des médias au fur et à mesure de ce feuilleton interminable au cours duquel on a à la fois des espoirs et puis des déceptions. Alors évidemment, la balle est principalement dans le camp des Britanniques, puisque, comme l'on sait, il y a eu un projet d'accord qui a été mis sur la table, négocié par la Commission européenne au nom des 27, et le 28e pays étant la Grande-Bretagne, ayant été représenté par son propre gouvernement. Donc, dernièrement, à la suite de cet accord, projet d'accord, qui devait être soumis au Parlement
et ratifié le
16 décembre par le Parlement britannique, eh bien là, qu'est-ce qu'on voit ? Un vote de défiance à l'égard du Premier ministre britannique, Madame May, qui n'a finalement pas été retenu. À la suite de quoi, Madame May, voyant que son Parlement ne voterait pas favorablement pour cet accord, ce projet d'accord, a décidé de le renvoyer à plus tard Au mois de janvier, la date n'est pas exactement fixée, mais bon, ce serait autour du 20 janvier, peut-être un peu avant, on n'est pas tout à fait sûr au stade actuel. Donc on est dans une certaine incertitude. Elle a essayé de négocier à Bruxelles pour essayer de calmer le jeu en Grande-Bretagne, et manifestement elle n'est parvenue à rien du tout, puisque lors précisément de ce Conseil européen, on l'a reçu poliment, mais on lui a dit « ce n'est absolument pas possible de renégocier quoi que ce soit au sein de cet accord qui est extrêmement complexe, sachant que le problème numéro un, c'est le problème de la frontière entre l'Irlande, la République d'Irlande, et la partie du nord de l'île d'Irlande qui appartient au Royaume-Uni. » Donc les projets, les problèmes sont toujours les mêmes sur la table. On va voir comment on peut en sortir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs scénarios possibles.
Ce que j'espère en tout cas, c'est qu'on ne va pas sortir le vieux fantôme religieux pour essayer d'attiser l'antagonisme entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord,
là, il est très fort,
sachant que le fait religieux, finalement là, sert surtout de prétexte.
Tout à fait. Alors bon, on ne va pas approfondir toutes les questions qui sont... On en a parlé lors de réunions antérieures, mais le problème numéro un, c'est précisément le problème de l'Irlande. Et c'est ce que l'on appelle le backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité qui, dans le cadre de l'accord qui a été négocié avec l'Europe et le Royaume-Uni, il est prévu de dire que si ça ne va pas, eh bien, de toute façon, on va faire en sorte que le Royaume-Uni entièrement va rester dans le marché unique. Mais évidemment, qui dit rester dans le marché unique pour éviter une frontière entre les deux Irlandes? Et donc, si il y a le marché unique, c'est comme maintenant. Mais comme la Grande-Bretagne veut s'en aller, bah, dans l'accord, il est prévu qu'ils sont partis. Et donc, ils ne participent plus aux décisions qui ont trait au marché unique. Ils sont comme, par exemple, la Norvège. La Norvège contribue au budget européen, selon certains dispositifs. Mais elle applique les normes européennes, c'est la Cour de justice européenne qui traite les litiges, et ainsi de suite. Et les Britanniques ont dit, ceux qui sont contre, évidemment, hurlent, ils disent, c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Et ceux qui sont pour, qui sont contre le retrait,
le Brexit,
qui sont contre le Brexit, ils sont pas contents du tout, parce qu'ils disent, on reste dans le marché unique, c'est très bien, mais enfin, si on n'a même pas...
Notre mot à
pas
dire.
La voix au chapitre, on fait plus partie du Conseil européen, donc on n'a plus de ministre et on prend les décisions dans notre dos. Ben oui, mais c'est comme ça. Donc les pros sont contre, ceux qui sont pour le Brexit, ils sont contre aussi en disant mais c'est une honte, on ne va pas accepter, nous on veut être chez nous, tranquille, et l'Europe, rien à voir. Donc on est bloqué. Et c'est bien le problème de cette ratification. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles, quand même, c'est intéressant de souligner.
Rapidement,
là, très rapidement, il y en a 8. Alors, soit elle obtient le feu vert du Parlement au mois de janvier. Bon, là, tout est réglé provisoirement, disons-le, parce que c'est un accord, avec un projet d'accord transitoire, avec une période de 2 ans qui peut être prolongée pour voir comment tout fonctionne, mais on prépare la suite, et la suite n'est pas encore négociée. Est-ce que c'est un accord de libre-échange, etc. Est-ce que c'est type Norvège, type Suisse? On ne sait pas. Deuxième cas de figure, elle réussit à renégocier un accord. Bon, ça paraît très difficile parce qu'on n'en veut pas au niveau européen. Le Royaume-Uni quitte l'Union sans accord. Alors là, c'est le total sortie, mais avec les risques à la fois pour l'Europe...
Bonjour les queues de camion.
Mais surtout... Les Britanniques, alors on en a déjà parlé, mais là c'est une catastrophe sans nom et à commencer par le Royaume-Uni. Alors après, on peut justement choisir faire un espace économique européen. Bon, soit ils rentrent dedans, soit pas. Bon, soit ils refont des élections générales au Royaume-Uni, mais alors on renégocie quoi, comment? Soit un référendum, un second référendum. Mais comment est-ce que ceci peut être fait alors que le 29 mars, il y a la sortie? Soit on repousse le Brexit, ce qui est aussi possible. Ils peuvent dire, bah non, finalement...
Le système transitoire va bien.
Et pour un peu compliquer la chose, on peut annuler le Brexit. Et justement, pour compliquer la chose, la Cour de justice européenne vient de dire, ah mais le Royaume-Uni peut décider ce qu'il veut, indépendamment de l'article 50. Et donc, c'est une catastrophe sans nom qui se programme. Donc, on est dans une situation on est pressé de voir comment tout ceci va évoluer.
Oui, je pense qu'il faut effectivement disons. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que dans toutes ces argumentations, on a des gens qui sont des techniciens, qui réfléchissent, et puis on a sur le terrain des gens qui se disent nous, on voudrait voir l'amélioration de notre niveau de vie. Nous, on voudrait qu'il y ait une équivalence entre ce qui se passe entre les plus pauvres et les plus riches. Enfin, il y a quelque chose qui est aussi bien autour du Brexit qu'autour de beaucoup de problèmes. Finalement, une espèce d'antagonisme entre ceux qui enfument, si j'ose dire, la population dans des attentes de dispositions législatives, etc., et qui finalement font que, en bas de l'échelle, on a des gens, et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais j'ai l'impression que ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est un peu la même chose. Ils sont là d'être considérés comme ils n'ont rien à dire, on ne se tient pas compte d'eux, et il y a à la fois l'écart social et l'écart financier, puisque il y a des écarts sociaux et financiers importants, mais aussi ils ont l'impression que les choses se passent en dehors d'eux à une époque où tout le monde a son téléphone portable, communique, etc. Donc là, il y a une espèce d'antagonisme, et c'est vrai qu'il serait important que l'Europe se saisissent de ces questions pour être plus proche des citoyens et plus...
Mais quand on dit plus proche des citoyens, il faut bien qu'on mesure à chaque fois la compréhension du système.
C'est-à-dire oui, un système trop complexe. Donc un système
qui est complexe, mais qui trompe par la faute de ceux qui en font partie, et je pense en particulier au niveau des États nationaux qui font partie de cette Union européenne, parce que souvent on dit c'est Bruxelles.
Non, qui
alors
rajoute.
J'en parle en connaissance de cause, puisque moi j'ai été un de ces...
Technocrates bruxellois,
donc j'en parle en connaissance de cause. Ce ne sont pas les technocrates européens qui prennent les décisions. Ils gèrent, ils exécutent ce que les États ont décidé avec l'accord du Parlement européen. On l'oublie trop souvent.
Ah oui, mais et les hommes politiques disent « j'ai été à Bruxelles et j'ai obtenu ça », et quand ça ne va pas, ils disent « c'est Bruxelles ».
Je peux témoigner de beaucoup de choses auxquelles j'ai participé, à des réunions de conseils de ministres aussi, je sais comment ça se passe et comment on trompe les gens. Et donc, vous avez raison de souligner, il faut que les citoyens reprennent la main. Et dans cette perspective-là, il y a les élections européennes de l'année prochaine qui auront un rôle excessivement important à jouer. Donc, on y reviendra lors de prochaines émissions. Mais en rejoignant tout ce que vous avez souligné, il y a un élément excessivement important. Les citoyens doivent non seulement pouvoir dire ce qu'ils pensent, ces consultations citoyennes sont déjà un premier pas, et il faut qu'on en tienne compte. Et pour en tenir compte, eh bien, il faut un certain nombre de pressions, précisément de ces citoyens, auprès de leurs États, puisque ce sont eux.
Alors, auprès de leurs États, auprès de leurs hommes politiques, et auprès des hommes politiques qu'ils vont élire, puisqu'il y a des élections bientôt. Alors, surtout, ne nous trompons pas de sujet. L'élection, c'est bien fait pour être une consultation démocratique. N'en faisons pas une consultation, un référendum, et n'en faisons pas non plus une consultation ploutocratique pour éviter que l'Europe ne dérive vers la ploutocratie. Et que ce soit les lobbyistes ou les technocrates, comme on le dit souvent, qui prennent la main.
Des vrais technocrates, vraiment... et à ce moment-là, on arrive à un système qui est un système autocratique, autoritaire.
Oui. Voilà, donc une vraie démocratie.
On a de mauvais exemples dans l'histoire et même encore actuellement dans le monde. Et donc, il faut rester dans un cadre absolument ouvert, mais vraiment démocratique.
Eh bien, ce sera le cadeau de Noël. Hein. Réfléchissez à ces questions européennes. Faisons en sorte que cette Europe soit la plus ouverte possible, la plus démocratique possible, parce que l'Europe, c'est notre affaire et c'est aussi celle de nos enfants. Bonne semaine à tous. Au revoir.